In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, oui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
3, 2, 1, ready for takeoff. Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires.
Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé.
C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
À l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre 10e saison de La Bulle immobilière. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier, toujours avec mon acolyte Sylvie. Comment ça va, Sylvie?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien. Sylvie, avocate en droit des affaires.
Yes, tout à fait. J'ai une annonce à faire pour ceux que ça l'intéresse. Dans le fond, je vais donner une conférence au réseau immobilier qu'on a reçu il y a quelques semaines. Donc, c'est le 16 mars. Je vous invite à vous inscrire. Donc, c'est une conférence sur éviter les pièges dans le cadre d'un achat-vente d'entreprise. Donc, on va viser autant les gens qui veulent acheter, par exemple, des actions de leur employeur ou vraiment acheter une nouvelle business. Donc, c'est une invitation. Vas-tu venir, Jeff?
Ben oui, c'est sûr. Je suis là. Écoute, le réseau, je suis même impliqué dans le réseau. Fait que c'est sûr, je vais être présent à ce déjeuner-là. C'est des déjeuners qui sont souvent sur la rive nord. On le fait justement sur le boulevard Laurier. Fait que c'est quand même des super bons déjeuners. Puis, en même temps, c'est toujours intéressant d'entendre des nouveaux conférenciers, dont toi, Sylvie, ça va être vraiment cool. Fait que toi, avocate chez Vigie Services Juridiques. Puis, dans le fond, tu te spécialises aussi en droit des affaires.
Exactement, exactement. Une passionnée d'immobilier, puis c'est ça qui est le fun parce qu'on reçoit toujours à l'émission des passionnés aujourd'hui. C'est le cas de le dire, hein? Je pense qu'on est bien excités. C'est une émission coup de cœur que tu as eue, hein? Je pense, Jeff, à l'époque.
C'est une émission coup de cœur. Je suis un chouchou, je suis un gars, je suis vraiment leur meilleur groupie, là. Je suis vraiment qu'est-ce qu'ils font. Je trouve ça toujours intéressant. On reçoit Kevin Lachance, on reçoit François Pelchat de ImmoStar. Bonjour les gars, ça va bien?
Vraiment bien. On est content d'être ici ce matin.
Très heureux.
Je vous remercie. Je vous remercie les gars d'être là. Puis surtout qu'en plus, là, vous êtes des gars occupés. Vous étiez sur Montréal hier, vous êtes avec nous aujourd'hui justement pour nous parler de votre passion. Vous avez un parcours incroyable aussi, puis un parcours qui n'était pas nécessairement dirigé directement sur l'immobilier initialement. Puis au fil du temps, ben vous avez intégré ImmoStar, puis j'aimerais ça que vous me parliez individuellement de chacun de vous. Si on commence par toi, Kevin.
Ouais, Kevin Lachance, dans le fond, je suis vice-président finance et stratégie. Parcours comme j'ai étudié comme comptable agréé, donc j'ai fait mes stages, mon début de carrière en cabinet comptable. Un peu le parcours traditionnel dans notre industrie, j'ai fait le switch chez un de nos clients qui était ImmoStar, donc un client qu'on avait depuis quelques années. Je suis rentré là, on était 12 personnes à l'époque, on est rendu, on en parlait tantôt, plus d'une soixantaine, 100 dans tout le réseau dans l'entreprise. Donc, j'ai gravi les échelons à l'interne, puis en 2016, on est devenu associés François et moi.
Cool. Puis toi, François, écoute, t'es un gars de marketing, je pense, ouais, à la base.
Un gars de pub, un gars de marketing, exactement. Donc moi, je suis vice-président développement, location commerciale, marketing pour ImmoStar. Mais évidemment, Kevin et moi, on porte plusieurs chapeaux dans la compagnie. Donc, moi, je suis un gars de marketing de la base. J'étais à Montréal. J'étais directeur de la commandite du Canadien de Montréal. J'avais une job de rêve, mais j'ai eu une opportunité intéressante. J'étais un entrepreneur dans l'âme. Donc, pourquoi pas switcher de la publicité pour de l'immobilier? Fait que j'ai décidé de faire mon chemin vers Québec en 2013 que je suis arrivé vers ici. Puis aujourd'hui, ça va faire 10 ans, je suis avec Kevin dans l'entreprise. On fait tout, on est heureux, on est des passionnés, on est innovants, on essaie de construire, de changer, de pousser l'industrie immobilière vers en avant. Puis c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui.
Puis écoute, ça met la table, c'est des gens qui sont ultra impliqués, c'est des gens qui viennent redéfinir les nouveaux standards de l'immobilier, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis au-delà de ça, c'est que vous avez un branding, une image de marque qui est ultra slick, ultra soignée, qui fait en sorte que quand on voit des nouveaux immeubles, quand on voit vos présentations, etc., mais tu sais, on a une belle image épurée, on a le goût d'en connaître un peu plus sur vos projets. Fait que ça, je trouve ça toujours intéressant. L'histoire d'ImmoStar, j'aimerais ça qu'on vienne revenir un peu à la base de ImmoStar part de où? Vous êtes arrivé chez ImmoStar, à quel moment, de quelle façon? Puis ImmoStar versus quand on s'est rencontrés à notre première entrevue, puis ImmoStar en date d'aujourd'hui, il y a comme une grosse évolution aussi. Là.
Ben, je vais commencer, Kevin. Donc, ImmoStar, ça a parti avec mon oncle, André Pelcha, qui est le fondateur, qui est un gars d'immobilier de plus d'une trentaine d'années d'expérience. Au départ, ImmoStar, c'était vraiment gestionnaire, développeur immobilier commercial. Donc, c'est spécialisé dans tout ce qui était méga-centre, strip commercial, développement de Tim Hortons, de Burger King, de Home Depot, 100% commercial. On a fait quelques sales back aussi. On n'était pas là, nous, dans ce temps-là, mais des sales back en industriel, dans des immeubles à bureaux. Fait que c'était vraiment les débuts de la compagnie. André a grandi, la compagnie a grandi. Nous, on est arrivé il y a 10 ans. Puis je vous dirais qu'en 2015-2014, on a pris un tournant résidentiel. Et ça serait une longue histoire à vous conter parce que c'est vraiment un concours de circonstances, puis les as se sont alignés avec des histoires qu'on pourrait vous raconter plus tard. Mais on a pris un côté résidentiel depuis 2016. Puis aujourd'hui, on a construit environ 1350 appartements dans la grande région de Québec, incluant Lévis. Puis on est en train maintenant de faire aussi de l'industriel. Donc de l'industriel, on livre notre premier projet à Saint-Augustin. Puis on a un grand, grand développement industriel qui s'en vient bientôt là, au sud de l'aéroport de Québec.
Quand même très cool. Hein. Puis au niveau d'ImmoStar, toi aussi, ça fait une dizaine d'années que tu étais là.
Oui.
Tes actions au début d'ImmoStar versus tes actions d'aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes fonctions non plus.
Non, effectivement. Je suis rentré comme directeur de l'investissement dans une acquisition de portefeuille de centre d'achat à l'époque. Donc, beaucoup d'opportunités à l'interne. André était très ouvert aux idées. Fait que j'ai gravi les échelons. On a bâti une confiance aussi avec nos partenaires. On a des grands partenaires financiers qu'on est allé chercher au fil des années. On a bâti vraiment un beau portefeuille. Puis, ben, l'avenir est très prometteur. Donc, on a aujourd'hui des employés, là, vraiment, c'est notre comité de direction. Ça fait pour la majorité plus de 5 ans, certains 10 ans qui sont avec nous, qui ont vraiment bâti l'entreprise. Donc, on en est très fiers.
Puis, ImmoStar, business de combien d'employés environ?
On est une 60-65 dans le siège social. Puis, si on compte nos différentes propriétés, on y est plus d'une centaine.
Quand même.
Oui, c'est hot. Puis, combien d'actionnaires?
On est trois actionnaires, Kevin, moi et André.
Okay.
Donc, avec plusieurs employés clés.
Puis commencer à travailler, tu sais, comme actionnaire avec son oncle.
Au début, je peux dire que c'était... Ah ouais, non, au début, je peux dire que c'était compliqué. Tu rentres comme neveu de l'oncle.
Ouais.
Puis en plus, moi, je n'étais pas un spécialiste de l'immobilier. Donc, j'ai vraiment du domaine marketing. Fait que je rentre chez ImmoStar ma première journée. C'est certain que tout le monde me regarde un peu en me disant, bon, mais c'est le neveu de l'oncle qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'il fait ici, tu sais. Mais je suis un travailleur, je suis une personne engagée, je suis quelqu'un qui est très sociable, je suis quelqu'un qui partage beaucoup mon information avec les autres. Puis rapidement, l'équipe m'a accueilli. Donc, fait que j'ai pu grandir avec eux. Puis je vous cacherai pas là, que je connaissais rien dans l'immobilier quand je suis arrivé. Là. Première journée que je me suis assis à la table, là, je me souviens encore. Moi, je parlais en coup par mille, tu sais, on vend de la pub en coup par mille, puis là, on tombe en pied carré. Je suis pas un gars de finance. Moi, j'ai le côté gauche du cerveau qui est beaucoup plus fort que le côté droit. Donc, m'asseoir puis écouter ces gars-là parler d'immobilier, puis parler de cap rate, puis parler de financement, puis parler de pieds carrés, de beaux bruts, de beaux nets, de toutes les particularités qu'on peut trouver dans l'immobilier, là, j'ai trouvé ça tough. Donc, la première année, pour moi, a été vraiment un défi. J'étais chanceux parce que mon oncle, il m'a engagé un mentor coach que j'ai pu suivre pendant un an et demi. Donc, je suis allé partout avec lui, là, que ce soit à Montréal, à Vancouver, à Toronto. Il m'a fait rencontrer plein de gens, on a visité plein de propriétés, puis là, j'ai appris. J'ai appris sur la gestion immobilière, j'ai appris sur la construction, j'ai appris sur comment qu'on fait des ententes de location. Puis petit à petit, ben, je suis un peu didacte. Moi, fait que j'aime ça lire, j'aime ça comprendre, j'aime ça poser des questions. Fait que petit à petit, ben, je me suis de plus en plus intéressé à l'immobilier. Ben, aujourd'hui, on est là avec une entreprise, puis on peut vraiment dire que je suis devenu un spécialiste de l'immobilier.
Ben oui, puis au-delà de ça, c'est que maintenant, tu donnes des conférences aussi sur des nouveaux processus, des nouveaux concepts, des nouvelles méthodes de construction. T'sais, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Puis une des choses que j'aimerais qu'on jase aussi, c'est l'effet saillant de ImmoStar, les différentes acquisitions que vous avez faites depuis 2019 à aujourd'hui, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous étiez sur le point où s'était finalisée la dernière maison de Lillo-Lapointe pour commencer le projet MU, puis le projet MU est construit maintenant. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bon moment de tout ça, là.
Oui, effectivement, c'était tout qu'un parcours, parce que c'était l'assemblage de l'acquisition de 16 maisons. On a, François et moi, réglé la dernière, là, donc on était très fiers. Puis après ça, ben, c'était juste le début du travail qui commençait. Donc, d'embaucher les professionnels, de monter l'équipe, d'aller chercher l'entrepreneur général. Fait qu'on a vraiment monté un concept qui est unique sur le boulevard Laurier. Donc, on a vu des défis. On a construit, on veut pas, pendant la pandémie, toutes sortes de questions. T'sais, on était convaincus du projet, mais à certains moments, quand ça a frappé, je me rappelle, nos investisseurs nous appellent. Bon, là, on veut des proforma, 10 % de moins d'un loyer, 15 % de plus d'un coût. Donc, il y avait une espèce de moment de panique. Mais nous autres, on était des gens qui sont en contrôle, qui sont calmes. On a vraiment livré ce qu'on avait promis à nos gens. Donc, on a un concept aujourd'hui qui est unique. On a livré la deuxième phase en avril l'année dernière. Et puis, on a un taux d'occupation qui est exceptionnel, mais surtout un milieu de vie qui est exceptionnel.
Puis, personne ne pourra jamais enlever l'emplacement. C'est le meilleur emplacement de la ville de Québec, en face des centres d'achat, à côté de l'hôpital. Futur tramway va passer directement. Ils viennent d'ouvrir en avril en avant. Donc, les résidents qui sont là sont heureux. Ils vont rester longtemps.
Puis c'est des gens qui vont rester longtemps, justement, là, parce que tous les services sont là. Ouais. Puis vous venez créer une stabilité aussi pour eux qui est incroyable. Là. Fait que ça, c'est un gros plus. Là.
Exactement. Puis on les éduque beaucoup aussi, parce que c'est un concept qui est tout inclus, avec l'énergie, les électros, les aires communes. Fait que, puis la minimisation de l'utilisation de l'automobile. Donc, on a un ratio de stationnement qui est 0,95 cases par unité. Fait que les gens qui viennent vivre au MU doivent faire le choix de laisser un véhicule. Donc, complètement d'en avoir seulement un par unité. Fait que ça, c'est un changement, c'est une adaptation, mais les gens s'adaptent vraiment, vraiment bien. T'sais, surprenamment, on est à un ratio aujourd'hui de 0,85. Fait qu'on est encore plus bas que qu'est-ce qu'on avait mis dans nos proformas. Fait que c'est une bonne nouvelle, les gens adhèrent.
Puis n'importe qui qu'on fait visiter, vraiment. On fait visiter à beaucoup d'investisseurs de Montréal, de Toronto, d'un peu partout au pays, puis ils sont vraiment frappés. Tu sais, des fois, on est rentrés dans le résidentiel pas pour faire comme toutes les autres. Tu sais, quand on rentre dans un secteur d'activité, c'est pour faire différent, pour amener de l'innovation, puis c'était notre mission au début quand on a parti notre projet des loges. Mais dans le MU, ça a été la même chose. Tu sais, on est arrivé avec un concept innovant, on est allé s'inspirer, on en revenait en fait de là, je pense, quand on avait fait l'entrevue en 2019, on en revenait de Copenhague. Donc, tout ce qu'on a appris là-bas, des bonnes pratiques, tout ça, on les a appliquées au MU. Et aujourd'hui, ben, c'est très payant parce que la visibilité, toute l'exposure qu'on a en termes de qualité de projet, les gens visitent ça, puis ils nous disent tout, on l'a jamais vu. Ouais. On n'a jamais vu qu'un site bien pensé comme ça, un milieu de vie, on a des grands espaces communs intérieurs, puis nos résidents l'apprécient beaucoup. Puis
notre équipe est très, très, très méticuleuse. Donc, si tu vas visiter le MU, tu vas voir la qualité de la finition, la qualité des matériaux qu'on prend. On est fatiguant là-dessus. Là. Quand on rentre dans nos projets, puis on commande quasiment chacune des unités pour être certain qu'elles sont parfaites.
C'est quand même vraiment hot. Puis, tu sais, je me rappelle aussi dans l'entrevue, justement avec les loges, tu sais, vous avez adapté les projets selon les demandes des clients. Puis ça, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que vous êtes toujours à l'écoute de votre clientèle. Tu sais, il y avait des clients qui disaient, ah, ben, tu sais, moi, je préférais avoir le béton exposé au niveau des plafonds. Il y en a d'autres qui préféraient avoir les cloisons fermées avec du gypse. Puis, tu sais, finalement, dans les prochains projets, ben, vous avez fait un étage avec du gypse, un étage avec du béton exposé, justement pour répondre aux besoins de la clientèle, puis que eux se sentent 100% satisfaits sur leurs unités. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis justement, quand vous arriviez de Copenhague, vous étiez en train de mettre en place les nouvelles certifications WELL sur, tu sais, l'habitation au-delà de... Tu sais, on parle souvent des certifications LEED au niveau d'efficacité énergétique, au niveau efficacité de bâtiment, etc. Sauf que là, on était beaucoup sur la qualité d'occupation, la qualité du résident. Puis vous aviez lancé plein d'idées de « Hey, écoute, nos prochains projets, on va faire ça », puis vous les avez mis en réalisation.
On les a réalisés, puis ça, sérieusement, c'est tout un exploit parce qu'on est les premiers au Canada à avoir fait un immeuble résidentiel certifié WELL R. WELL, c'est le même organisme qui chapeaute le LEED. Au lieu d'être centré sur le bâtiment, c'est vraiment centré sur le bien-être et la santé de l'occupant. Donc, tu as une dizaine d'optimisations avec 100 caractérisations qui doivent être faites en conception, en construction et en opération. Donc, pour ImmoStar, ça a été une adaptation vraiment importante de notre équipe de conception et de gestion. Mais en plus, ça a été aussi des grandes négociations avec Well. Parce que Well était construit aux États-Unis, pas adapté pour le climat ici à Québec. Donc, il y a plein d'éléments d'optimisation qu'on a discuté avec eux pour pouvoir être en mesure de modifier. Un exemple, ils nous demandaient un espace vélo par unité au rez-de-chaussée à l'extérieur. Donc, imaginez au mieux, ça fait 465 espaces de vélo à l'extérieur au cœur du boulevard Laurier. Il y avait plein d'éléments comme ça qu'on a dû s'adapter, qu'on a dû changer, qu'on a dû négocier avec eux. Puis au bout de la ligne, il était très, très, très parlable. Fait qu'on a réussi à atteindre pour le UP, notre projet en Lebourgneuf, une certification or, alors qu'on faisait une certification argent. Mais quand ils sont venus faire les tests, nos systèmes mécaniques étaient tellement performants, la qualité de l'air était tellement bonne dans le bâtiment qu'on a réussi à aller chercher des points pour aller chercher l'or. Donc ça, c'est tout un exploit.
Ça, on va y revenir aussi là, dans le prochain segment. C'est hyper intéressant, mais là, on parlait beaucoup aussi d'Emostar. C'est quoi les valeurs derrière Emostar pour en arriver à ça, j'imagine? Est-ce que vous pouvez m'en parler des valeurs? C'est une bonne question. Hein?
Une des bonnes valeurs, en fait, c'est qu'on aime mettre à l'avant-plan, c'est la créativité dans tout ce qu'on fait. T'sais, donc, on en parle en termes de concept. Mais tu sais, même notre équipe, que ce soit de la comptabilité, de l'égal, des fois, on dit, oh, mais c'est des domaines plus traditionnels. Mais non, il y a toujours moyen de faire, d'innover. Le nombre de fois qu'on s'est fait dire ça se fait pas. Ben oui, ça se fait pas. Mais si on n'a pas posé la question et qu'on n'a pas challengé les gens, ben on n'arrivera pas à. On va faire comme on a toujours fait. Donc, c'est la même chose en financement. On a poussé des concepts un peu plus audacieux, ou en tout cas, sans dire en termes plus risqués, mais en termes de dire aux banquiers, on va travailler ensemble. On veut vraiment un partenariat. On a besoin, voici nos objectifs, comment tu peux nous accompagner là-dedans. Puis, ben, on a justement une de nos employées qui est une ancienne bancaire, puis elle dit, ben, ça, moi, je l'aurais refusé complètement à l'époque, mais là, maintenant que je suis de votre côté, je comprends ce que vous voulez, puis on pousse plus loin. Donc, ça, c'est une grande valeur qu'on met à l'avant-plan. Transparence. T'sais, transparence, on est avec nos investisseurs, c'est très important. On est investisseurs, nous, dans tous nos projets. On a des grands partenaires qui nous accompagnent. Donc, il faut leur dire autant les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Ça, pour nous, c'est très, très, très important.
Satisfaction client, priorité client. Donc, on a nos clients investisseurs, on a nos locataires commerciaux, nos locataires résidentiels. Donc, on ne laisse pas traîner les demandes. Donc, on a une équipe de gestion qui est performante, qui est à l'écoute. Puis, je t'en parle souvent, là, Jean-François, là, c'est la marque Emostar. Donc, maintenant, aujourd'hui, les gens viennent vivre, oui, au MU, au UP, au Loge, au Maguire, dans notre projet Cap-Rouge. Mais en premier, qu'est-ce qu'ils veulent? Vivre dans un projet Emostar. On a des locataires, parfois, qui quittent un projet comme le MU. Ils s'en vont UP. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un projet Emostar. Comment qu'on fait pour garder la marque au top? C'est en ayant un bon service, c'est en répondant aux clients. Quand on a des enjeux, des difficultés, certains qu'on les règle avec notre équipe de gestion, des augmentations de loyer, d'être quand même respectable, de toujours d'avoir cette bonne relation avec les différents clients. Puis ça, c'est un des éléments qui est important chez Emostar. C'est pour ça que Kevin et moi, on a choisi de garder la taille de l'entreprise à cette grosseur-là. Parce qu'un moment donné, quand on devient plus grand, plus gros, ben on perd cette efficacité-là, cette essence-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous. On veut pas le perdre, on veut le garder.
C'est quand même malade, hein? Écoute, ça met la table sur qui est Emostar, qui est François Pelchat, puis Kevin Lachance. Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, jean-françois-morin.ca, vigiquebec.com, labulleimmobilière.ca, mais aussi sur toutes les différentes plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et...
À Québec, l'atelier sur Grande Allée.
CJMD, c'est la station.
La seule station hip-hop au Québec.
Chérie. Hein? Chérie.
Quoi?
Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une patte de lièvre au-dessus du foyer de la maison,
hein?
Elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent.
OK.
Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres,
OK, ouais.
On va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça?
C'est extrêmement merveilleux, chérie. Me semble que je t'avais dit d'écouter à la bulle à CGMD, non?
De retour à la bulle immobilière.
Aujourd'hui, on est avec Emostar, on est avec des superstars aussi. On est avec François Pelchat, Kevin Lachance, qui sont co-actionnaires de Emostar, mais qui sont aussi des passionnés de l'immobilier. C'est des gens qu'on a déjà reçus à aller écouter nos podcasts. Pour vrai, c'était à l'époque une émission de 2 heures. Les gars avaient du contenu, la certification Well, ils commençaient à le mettre en place. Maintenant, c'est fait et c'est acquis et c'est genre réussi fois 1000. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on... qu'on revienne un peu là sur les faits saillants, là, parce que tu sais, vous en avez fait des choses, puis vous êtes très impliqué autant dans le bureau, autant dans l'industriel, autant dans le multi, autant dans le commercial. Vous avez quand même une très grande agilité là sur le développement immobilier at large. Là. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime?
En fait, beaucoup de, on veut continuer, tu sais, le penchant qu'on a pris vers le multirésidentiel. L'objectif, c'était d'alimenter encore le développement, mais de maîtriser une autre catégorie d'actifs pour vraiment, si on peut dire, là, vraiment densifier nos sites. Fait qu'un des projets, on est très fiers, c'est le Mail Cap Rouge, qui sert d'exemple là, à travers, oui, la ville de Québec, mais même dans la province de Québec en termes de développement intelligent. Donc, à l'époque, on a pris un centre d'achat qui avait une vacance importante. Il y avait une épicerie qui avait quitté depuis quelques années. C'était un peu la risée du secteur aussi, là, à Cap-Rouge.
Jean Coutu était toujours là?
Jean Coutu était encore là. Il y avait, bon, le golf, une petite animalerie, des choses comme ça. Mais bon, c'était un centre qui veut pas avait été malmené par le développement des power centers un petit peu plus loin. Donc, nous, on est arrivé là, on a acheté, on avait eu vraiment une opportunité dans ce que les gens voyaient comme un centre désuet. On a démoli l'épicerie. On a vendu les droits, là, le terrain à Chartwell Baltimore, qui a construit une résidence de personnes âgées d'autour de 360 unités. On en a profité de notre bar pour vraiment redévelopper le commercial. Puis là, ben, on est très fiers de lancer une phase multirésidentielle. C'est l'objectif, mais tu sais, il n'y a pas de projet sur carton, c'est toujours facile sur papier. Mais là, on a fait un processus de changement de zonage, on a fait de l'acceptabilité sociale, puis on est content. Là, on a lancé la construction depuis quelques mois. Donc, un 114 portes là, qui va se développer à Cap-Rouge.
Par-dessus le centre commercial existant?
Va être à droite du centre commercial existant. Donc, on utilise du stationnement. Donc, on est vraiment, on va parler de développement durable tantôt. On utilise une portion de stationnement qui est excédentaire puis qui est mal utilisée là, dans la ville. Donc, on a densifié sur ce site-là. On a démoli une petite partie du centre additionnel. On a gardé vraiment les locataires performants puis vraiment axés sur le service de proximité. Donc, on a gardé le fameux Jean Coutu, la banque qui est là. On a une lunetterie. Ouais. Donc, vraiment des choses qui
servent. Lunetterie Jean Coutu. Résidence de personnes âgées, on voit-tu le lien?
On a le S&Q en avant.
Ah ouais, c'est ça, exact.
Qu'on a acheté en parallèle.
Tout est là. Exactement. Non, mais c'est hot de voir le potentiel. Fait que vous avez dit, il y a une opportunité là, il y a des unités vacantes, on lance le projet. Combien de temps ça prend, là, tu sais, justement, tu parlais de ça, là, sur carton versus le livret, là?
On parle de plus de 5 ans de développement comme tel, puis après ça, en réalisation de la force, c'est que ça va être. Ça ne touchera pas 10 ans, mais près de 10 ans de développement.
Parce que tu sais, surtout qu'il y a une acceptabilité sociale qu'il fallait qu'il fasse partie du projet. Il y avait un changement de zonage qui faisait partie du projet aussi. Fait que tu sais.
C'était plus long. T'sais, à Cap-Rouge, là, les gens, ce n'est pas dans ma cour. T'sais. Les gens sont prêts à t'écouter, mais sont quand même, ils ont été irrités dans le passé. Donc, il a fallu qu'on y ait vraiment avec. Ça a pris un commitment de la Ville de Québec très, très, très fort. Puis après ça, bien, il y a eu beaucoup de séances de travail avec le conseil de quartier, avec les citoyens, des présentations pendant la pandémie en Zoom. Je vous dis, là, il y avait 60, 90 personnes, ces présentations. On se faisait bombarder de questions. Mais on était prêts. On avait un beau projet. On a fait des compromis pour pouvoir être en mesure d'élever notre projet là-bas. Puis aujourd'hui, ça devient un exemple de réussite, de transformation de centre d'achat pour la Ville de Québec, mais que la Ville et la province vont être réutilisées partout, partout, partout. Voici un exemple de réussite. Écoutez, on a rajouté quasiment 500 portes sur un site.
C'est quand même complètement fou. Puis au-delà de ça, c'est que vous le faites de la bonne méthode, dans le sens que vous n'arrivez pas avec vos grands sabots puis dire, ben écoute, c'est comme ça que ça va se passer, puis voici mon projet, etc. Au contraire, c'est que souvent, la première étape, ça va être d'écouter c'est quoi les besoins. Puis par la suite, t'sais, vous allez pouvoir mijoter sur de quelle façon vous allez pouvoir répondre à ces besoins-là sur un développement futur qui fait en sorte que l'acceptabilité sociale devient vraiment plus facilitante aussi parce que ils ont été écoutés à la base.
Ben, c'est des gens qui restent dans un secteur de moins d'un kilomètre qui vont continuer à consommer le commercial et qui vont venir vivre dans le projet. Donc, si on les irrite en avant, pendant, ben, ils ne viendront pas. Donc, si on est capable de faire ça de manière très respectueuse avec eux, ben, rapidement, on va remplir le projet. On lance d'ailleurs la location le 28 février prochain. Donc, on le bébé est out.
Quand même, 28 février, c'est mardi prochain, fait que c'est très, très tôt. Les gars, tu sais, pendant le temps qu'ils vont faire un lancement, ils s'occupent aussi des opérations, s'occupent aussi des nouveaux projets de développement. Tu sais, il y a aussi une vision que vous avez sur l'industriel qui doit, tu sais, changer au fil du temps, qu'on doit peut-être repenser et revoir sur nos méthodes. Puis, tu sais, puis, tu sais, on parlait hors d'onde, justement, tu sais, les centres comme Montréal, où ce que, tu sais, on a besoin du 4, 5, 6 étages pour pouvoir utiliser la superficie au sol, qu'ici, à Québec, ben, c'est un, tu disais, François, que c'est un peu ça qu'on vient chercher, la superficie du terrain aussi. Mm-hmm. C'est quoi un peu l'avenir que vous voyez par rapport à l'industriel? Puis c'est quoi les nouveaux changements qu'on devrait paramétrer dans nos parcs?
Tu sais, la base qu'on voulait, nous autres, on a toujours été des propriétaires d'industriels. Le but de vraiment y aller en développement accéléré de ce côté-là, ben, c'est qu'il y a une demande. Il y a une demande actuellement, il y a une pénurie de terrain. Donc, c'est une des grandes forces du Mostar, c'est qu'on est agile entre les différentes catégories d'actifs, puis on peut se promener. Puis là, on a vu une opportunité, comme on l'a vu à l'époque dans le multirésidentiel. Donc, on a saisi cette opportunité-là. Puis la demande des locataires présentement, c'est beaucoup de logistique. Puis nous, ce qu'on veut amener, comme on a été créatif aussi dans les autres catégories, bien, c'est de l'innovation. C'est l'innovation, ça va passer par une meilleure utilisation des différentes ressources, donc la meilleure utilisation du terrain. Donc, la ville veut développer, mais veut développer différemment. Fait que François, je peux te passer la parole.
Ouais, puis tu sais, nous, on regarde beaucoup le marché pan-canadien. Donc, à Vancouver, à Toronto, Montréal, vous avez eu du développement qui était exceptionnel dans les trois dernières années. Puis les terrains sont rendus pas achetables. Donc, il y a des terrains à 100, 120 $ le pied carré là, sur l'île de Montréal. Fait que naturellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont s'en aller dans des secteurs moins dispendieux, comme la ville de Québec. Tu as accès à de la mobilité, tu as accès à une bonne main-d'œuvre, tu as un climat qui est plus froid, tu as des autoroutes, tu as l'aéroport, tu as le port de Québec. Fait que tous les ingrédients de la recette sont là pour que ça fonctionne bien. Donc, nous, on a décidé de se positionner comme entreprise. On s'est dit, le futur est dans le multirésidentiel, dans le commercial, mais surtout dans l'industriel. Donc, on a fait notre premier bâtiment à Saint-Augustin qu'on a fait de manière spec, qu'on appelle. Ça veut dire, sans avoir de locataire, on a construit une boîte de 125 000 pieds carrés. Parce qu'on savait [S2] Wow. [S1] Qu'il n'y avait pas de disponibilité sur le marché. Donc, pendant 6 à 8 mois, même encore aujourd'hui, on est le seul bâtiment de 100 000 pieds carrés plus prêt à recevoir un locataire demain matin. Donc, ça, c'est le genre de construction qu'on va aller faire aussi dans notre nouveau projet qu'on est en train de travailler actuellement avec la Ville de Québec.
Puis, est-ce que vous avez l'ouverture à séquencer l'immeuble, à faire des séparations, louer un 50 000, garder un 50 000, un 75, 25?
Le projet avait été conçu de cette manière-là au départ. On voulait avoir 4 locataires de 30, 40 000 pieds carrés. Puis, le marché s'est tellement mis à aller rapidement pendant la pandémie qu'on a dit, on va attendre un peu pour avoir un locataire unique. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est content d'avoir fait ce choix-là parce qu'on est sur le point de signer une entente assez intéressante avec un locataire qui est dans le top 50 du Fortune 500, qu'on ne peut pas annoncer aujourd'hui, mais qu'on pourrait annoncer, que vous pourrez voir dans les journaux au cours des prochaines semaines.
Quand même très cool, les gars. Puis un des éléments que vous avez, vous êtes des fervents défenseurs du développement durable aussi. Les parcs industriels, tu sais, on voit ça souvent comme une bête noire là, parce que tu sais, on va faire de la pollution, puis c'est industriel, etc. Par contre, une des choses que moi j'aime beaucoup dans ça, c'est que vous venez intégrer des certifications qu'on peut voir sur le résidentiel, puis vous essayez de le repenser aussi pour le commercial, l'industriel. Puis j'aimerais ça que vous me parliez un peu justement là, de votre vision de l'industriel, de quelle façon qu'on devrait repenser les espaces, puis tu sais, des nouveaux projets qui pourraient voir le jour.
Je vais te parler un peu de développement durable. Tu disais tantôt qu'on était agile quand on gérait le projet Loge. Donc on a...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Il y avait du béton, du gypse, selon qu'est-ce que les besoins de la clientèle étaient. Aujourd'hui, la clientèle, elle a vraiment évolué. Ceux qui vont venir vivre dans nos projets dans 10 ans, c'est la nouvelle génération pour qui la lutte au changement climatique, le développement durable est très, très, très important. On le voit aussi.
C'est vrai.
Il y a une tendance planétaire. Il y a des ouragans, des catastrophes, des sécheresses, des feux partout sur la planète. Ça s'en vient vers ici. Fait que nous, on doit comprendre comme promoteur, puisqu'on construit pour du 50, 100 ans, c'est quoi les impacts de la nouvelle réalité qui s'en vient. Donc, on a décidé, nous, de se positionner, Monstar, comme un leader en innovation de développement durable. Donc, on a mis sur place, dans la compagnie, un comité sur l'efficacité énergétique. Donc, comment qu'on fait pour minimiser notre consommation de gaz? Comment qu'on fait pour faire des transferts d'énergie entre les différents bâtiments? Comment qu'on fait pour améliorer la gestion de la pointe de nos bâtiments pour, quand il fait moins 30, comme il y a deux semaines ici à Québec, bien, pour pas que nos locataires, tous en même temps, bien, partent le fourneau, prennent une douche de 45 minutes, puis qu'on soit en mesure, là, vraiment, d'avoir une efficacité énergétique. On a aussi décidé de se positionner pour la décarbonation des immeubles. Donc, comment qu'on fait pour diminuer nos gaz à effet de serre? Donc ça, il y a plein de mécanismes, il y a plein de subventions avec Hydro-Québec, avec Énergir, qu'on peut aller chercher pour vraiment améliorer nos bâtiments.
Puis on parlait de bâtiments existants, là. C'est pas juste nécessairement sur les nouvelles constructions. Là, on peut le prévoir puis le réfléchir aussi pour des bâtiments existants. Là.
On peut réfléchir, on peut changer. Les bâtiments les plus polluants, je dirais aujourd'hui, c'est les vieux bâtiments. Ils sont faits sur des vieux systèmes au gaz, c'est des plaintes électriques et qui tirent beaucoup, beaucoup de jus. Fait que les subventions sont beaucoup, beaucoup montées pour ces types de bâtiments là, aujourd'hui.
Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je m'implique souvent dans des concours d'entrepreneuriat, puis ce que tu dis, c'est exactement vrai. Là, tu sais, avant, les entreprises, c'était beaucoup des nouvelles tendances et tout, mais maintenant, c'est développement durable, écologie, tu sais, mobilité durable. C'est ça que les jeunes veulent entendre. C'est ça qui les intéresse. Fait que je trouve ça vraiment hot.
Mais qu'est-ce qui s'en vient, là, Sylvie? C'est qu'ils ont passé une loi pour la divulgation obligatoire. Donc, à Montréal, tu vas être obligé de divulguer, tout dépendamment de la grandeur de ton bâtiment, c'est quoi l'émission de tes gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Puis là, ils vont te donner une note de A à E. A, t'es un bon propriétaire. E, tu pollues. Fait que si toi, t'es un locataire résidentiel, commercial, industriel, puis tu recherches, puis tu vois que t'es coté E comme bâtiment, un, tu vas avoir un impact, tu seras pas capable de le louer. Deux, tu vas être pénalisé probablement par la taxation municipale. Ton banquier voudra pas te financer. Donc, ça s'en vient, là. On est vraiment, vraiment rendu là d'ici les deux prochaines années. Puis si on n'embarque pas dans le bateau aujourd'hui, quand ça va arriver, ça va tout nous ramasser. Fait que nous, on veut vraiment comprendre c'est quoi, comment que nos bâtiments dégagent de gaz actuellement pour voir s'il y a des actions à prendre quand qu'on les prend. Parce que si tout le monde se met à commander des machines ou à se mettre sur avec Hydro-Québec sur les programmes de subvention en même temps, bien, ça va se staller. Donc, si nous, on est en avance, puis on est prêt, et quand ça va arriver, on va être en mesure d'avoir un avant. On va être en avant de tout le monde, en avant de la parade.
Mais vous êtes souvent en avant de la parade aussi. Là, on va se le dire aussi là, sur les certifications que vous allez chercher, l'habitation, puis l'environnement que vous offrez, autant dans vos espaces à bureau, autant dans l'industriel, autant dans le résidentiel. Je trouve ça quand même complètement fou. Puis, tu sais, on parle justement des faits saillants des Immostar, les réalisations que vous avez faites. Immostar 2030, ça va ressembler à quoi?
En fait, on se positionne. T'sais, on a fait une grande acquisition de terrain là, dont on peut parler. 12 millions de pieds carrés là, tout près de l'aéroport de Québec. Donc, c'est un site à vocation industrielle, mais encore là, avec tout ce qu'on a parlé, on dit que c'est le sujet de demain, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, déjà dans notre conception, on ne fera pas un parc industriel comme on l'a toujours fait. On est à l'avant-plan, à l'avant-garde pour vraiment comprendre les objectifs des parties prenantes. T'sais, la ville veut plus développer comme avant. Fait que comment qu'on devient un partenaire avec eux, non pas le voir comme un obstacle. Donc nous, on croit beaucoup à ces facteurs-là. Donc on a parlé beaucoup d'efficacité énergétique, de meilleure utilisation des terrains, mais c'est aussi pour faciliter le développement avec la ville. Donc on veut un canal de communication qui est plus fort. Moi, au niveau des banquiers, ben c'est déjà sur la table. Ils ont des objectifs déjà de convertir pour certains, plus de la moitié de leur portefeuille de prêts en prêts verts ou en prêts qui se qualifient verts. Donc ça veut dire aujourd'hui, ben quand ils regardent un dossier, ben si t'es pas dans cette lignée-là, ils peuvent tout simplement t'écarter, te mettre sa ligne de côté. Donc si on n'est pas conscient de ces facteurs-là, ben nos projets peuvent être mis de côté. Donc nous, déjà, dans ce qu'on conçoit, donc là, on fait de l'acquisition de terrain, c'est des projets qui vont se livrer 2025 sur une période peut-être justement 10-15 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il faut y penser sur le concept qu'on va y mettre, parce que ça va nous impacter concrètement, que ce soit juste en financement, mais même les investisseurs, que ce soit l'investisseur d'aujourd'hui ou quelqu'un qui pourrait racheter notre projet plus tard, ben ça va être des facteurs qu'on va te considérer.
Parce qu'on va en parler tantôt du financement aussi, ouais. Parce qu'il y a d'autres défis qui se passent aussi, puis les institutions financières, eux autres aussi, veulent changer leur méthode de financement, puis tu sais, de limiter, oui, un risque financier, mais d'amener aussi des prêts plus écologiques aussi. Puis je trouve ça le fun qu'on le voit aussi au niveau des institutions financières. Là. Mais moi, je pense que Immostar 2030, on est comme tous pas prêts à savoir, genre, ça va être quoi les nouvelles technologies, parce que puis les nouvelles méthodes que vous allez utiliser, parce que vous êtes des gars qui se tenaient à jour tout le temps. Fait que tu sais, vous vous en tenez pas juste à qu'est-ce qui se fait au Québec, mais vous allez voir à travers le monde, puis même, oui, le Canada anglais, etc., mais vous vous tenez à jour sur qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, vous l'appliquez, c'est ça qui est fou.
Exactement, on se tient à jour sur tout, puis tu sais, je te dirais, pour compléter qu'est-ce que Kevin disait tantôt, on va beaucoup aussi continuer à faire des appartements. Il y a un manque, on l'entend, là, chaque jour, la pénurie de logement, abordabilité. C'est notre quatrième projet, nous, qu'on fait en abordabilité. Donc, avec le programme APH Select, on est très, très fiers de ça, puis c'est quelque chose qu'on veut continuer. Il y a un manque, là, vraiment important d'appartements. Fait, comment qu'on fait pour travailler avec la municipalité, avec le provincial, avec le gouvernement fédéral, pour être en mesure d'avoir des programmes qui nous donnent accès à aider ces personnes-là? C'est compliqué de construire aujourd'hui. T'sais, tu peux pas construire un appartement, puis louer à 600 $ par mois. T'sais, la mathématique, elle fonctionne pas, puis on se cachera pas. On veut pas faire de l'investissement ou du développement immobilier pour perdre de l'argent. Il faut quand même qu'il y ait une profitabilité. Là, on a des employés, on a des gens à faire vivre, c'est super important. Ouais, pis, mais ça va être une orientation d'Immostar aussi.
Là, vous êtes en affaires aussi. Puis l'objectif aussi, c'est d'amener des projets rentables. Par contre, selon moi, vous êtes aussi un accélérateur. Puis vous êtes un peu du carburant aussi pour la municipalité pour construire des logements. Parce que les petits entrepreneurs, bien qu'ils ont leur place sur le marché, qui vont construire des 6, 12, 24 logements. Mais quand vous arrivez avec du 100, 200, 500 logements, ben, veut pas, on répond à une plus grande demande beaucoup plus rapidement que de faire plein de
projets. Et on fait la densification, c'est important. Je t'expliquais tantôt, hors ronde, là, qu'il faut pas multiplier les services de la ville. Donc, la gestion des matières résiduelles, l'eau, les routes, le transport scolaire, mais c'est quelque chose qu'on doit minimiser au maximum pour pouvoir investir ailleurs dans la ville. Les écoles en ont besoin. Il y a plein d'autres personnes qui en ont besoin de cet argent-là. Fait que si on stoppe l'étalement, mais techniquement, ça nous fait du revenu supplémentaire pour être en mesure d'investir dans les gens qui en ont plus besoin.
Moi, ce que j'entends beaucoup depuis tantôt, vous travaillez avec les villes, vous travaillez avec les municipalités, avec le gouvernement et tout. Est-ce que ça vous inquiète quand il y a des changements de politique, quand il y a des élections? Là? Surtout que vous avez des projets long terme, vous achetez des millions de pieds carrés.
Ben oui, puis non. Je te dirais que parfois, ça peut nous inquiéter, mais c'est bon d'avoir un vent de renouveau. La manière de penser est différente. Il y a une approche qui est différente. Il y a une direction différente qui est donnée à l'équipe.
Il y a un changement dans l'équipe aussi qui se fait, là. Oui.
Mais c'est pas mauvais. T'sais, le renouveau est toujours important. Ça amène des nouvelles manières de penser. Fait que nous, on essaie de s'adapter. Ça fait partie de la réalité immobilière, de négocier avec les villes, avec différentes instances. Fait que nous, on n'est pas des critiqueux. T'sais. On essaie de trouver, de travailler
en solution
ouais, avec les différentes villes pour être en mesure de répondre à leurs objectifs et de répondre à nos objectifs. Win-win.
Moi, je comprends, mais ça doit être inquiétant quand même. Là. Tu sais, quand tu es en train de finaliser un dossier, puis là, boum, élection, ça change d'équipe.
C'est plus le niveau des délais, je vais t'avouer. Ouais, parce qu'on le voit vraiment qu'il y a des périodes. Ton projet est présenté. Oh, là, ça se ferme, mettons, je dis n'importe quoi. Mais cet
au été, mois de novembre.
C'est ça. Là, c'est la période de budget. Donc, on vit avec ces facteurs-là. Mais avec les années, honnêtement, on a pris en considération. On suit jamais
nos échéanciers.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, ils l'ont prévu un peu dans leur échéancier aussi, là, qu'il y a comme une zone tampon où on n'a pas le choix de vivre avec. Vous êtes à l'écoute de CGMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce et juste avant Zone parallèle.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Vous écoutez CGMD 96.9.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
983 poste 4. CJMD. La radio des classiques, baby.
Mes rimes stockées. Sors. Mon avalanche est prête.
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais. Moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La bulle immobilière au 96.9, l'alternative radio.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec nul autre que Jean-François Morin de l'équipe Nous vendons votre maison. On est aujourd'hui avec François Péchard et Kevin Lachance de chez ImmoStar. Super intéressant jusqu'à maintenant. On a abordé un peu la question de l'abordabilité, puis j'aimerais savoir votre point de vue un peu plus par rapport à ça, parce que vous me disiez tantôt, vous avez fait 4 projets, je crois, déjà avec l'APH Select. Pouvez-vous m'en dire un peu plus là-dessus?
Ben oui, certainement. Donc, le programme APH Select, c'est 3 critères à respecter. Donc, de l'accessibilité, l'économie d'énergie et l'abordabilité. Donc, c'est entre 10 et 15 % de tes appartements qui doivent, Kevin, est à 30 % en dessous du revenu médian.
C'est ça, 30 % du revenu médian des locataires, là, locataires. De la, si on veut, de la RMR qu'on vise. Donc, c'est un programme qui a été vraiment lancé, qui est arrivé de nulle part en mars l'année passée. Mais qui a été une bouée de sauvetage. On l'a tout pris, on savait pas que ça s'en venait. Donc, tout le monde l'a regardé un petit peu avec un peu de réticence au début parce qu'on veut pas ça marchait encore à ce moment-là du SCHL standard, même du prêt conventionnel en construction. Puis là, on a vécu un peu la crise de taux d'intérêt qu'on vit actuellement. Donc, on s'est viré vers ces programmes-là. Fait que nous autres, de notre côté, on y touche de deux façons. T'sais, on y touche en efficacité énergétique, fait qu'on a des projets qui se qualifient. Puis en abordabilité aussi, là, on va compléter. Fait que c'est un programme qui est pas parfait, mais ça a été vraiment une bouée de sauvetage pour notre industrie parce que des projets qui ne sont pas sur la PHLEC, on va parler de projets quand même majeurs, il y en a presque pas. Donc tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis on a appris très, très vite. On apprend encore dans ce programme-là, mais c'est sûr que tous les nouveaux développements qu'on regarde sont pas mal avec le PHLEC.
C'est pas juste vous là, qui apprenez avec le programme, eux autres aussi, parce qu'ils ont réadapté le programme selon les nouvelles demandes. Puis tu sais, c'est toujours aussi... pour répondre à ceux-là qui n'ont abusé ou ce qui là sont obligés de venir mettre des restrictions par rapport à tout ça. La PHLEC, c'est un beau programme qui peut permettre d'aller chercher pas 100% du financement, mais quand même jusqu'à combien?
Ben, en fait, le présentement, avec les taux d'intérêt qu'on vit, c'est plus tant le ratio de financement qui est l'enjeu, c'est le ratio de couverture de la dette. Donc, on peut potentiellement aller chercher jusqu'à 95 % des coûts. Mais la réalité, présentement, nous autres, là, c'est autour de 80 %. On est plus dans ces eaux-là. Donc, on a quand même un contexte de taux d'intérêt qui a complètement changé. Là, puis que si on avait enregistré l'émission il y a 3 semaines, j'aurais eu un vent d'optimisme, mais ça fait 4-5 jours qu'on s'en refait sacrer des coups en arrière des jambes. Là. Donc, c'est un challenge présentement. Mais on met quand même pas mal moins d'argent pour construire un nouveau bâtiment. On en met moins en pourcentage qu'on en mettait avant. Donc, c'est quand même avantageux. C'est sûr que ça vient que c'est défaut. T'sais, on a un enjeu au niveau du cautionnement, entre autres, qui doit être discuté avec nos partenaires. Parce que c'est pas la recette à laquelle ils sont habitués puis qu'ils apprécient nécessairement, mais... Ils comprennent aussi les avantages ultimement du programme que là, ben, le cautionnement va disparaître après un certain temps.
Quand même, là. Puis tu sais, dans les projets de la PHLEC, vous êtes à votre quatrième projet. La PHLEC va sûrement grandir aussi au fil des années. Les besoins changent très rapidement actuellement. Puis pour répondre aux différentes demandes, ben tu sais, le gouvernement puis la SCHL doit aussi s'adapter. Puis une des discussions qu'on avait, c'était justement si la PHLEC était pas là, ben ça viendrait créer une pression sur les prix des loyers.
Ben exactement. Tu sais, on doit s'adapter parce qu'il y a un manque important de logements. Puis il y a des gestes là, qui pourraient être très, très simples à être faits pour être en mesure de nous aider à construire. Par exemple, l'autocotisation. Donc, elle n'a jamais été adaptée, Kevin, depuis quelle année?
Ouf, je n'étais pas né. Non, c'est pas vrai. Mais, on est ce qui frappe, en fait, sur l'autocotisation, c'est que la TPS, elle a été ajustée. Fait qu'à 450 000, on peut jusqu'à 450 000 de coûts de construction, on peut récupérer les taxes. Mais au niveau de la TVQ, on est à 225. Donc, construire aujourd'hui une porte, c'est all-in, pas juste le coût de construction. Là, tous les frais accessoires à 225 000, ça n'existe pas. Donc, on a une perte nette au niveau de la TPS-TVQ, en fait, de l'autocotisation qui nous fait mal dans nos proformes.
Puis qu'on remet dans le coût de loyer. T'sais. Puis je sais pas si vous avez lu les journaux récemment, mais il y a des taxes de développement que certaines villes rajoutent, 3 500, 5 000, 15 000 par unité, qui viennent se rajouter au coût de développement, au coût de terrain, à la taxation, à tous les différents enjeux qu'on a. Fait que c'est comme si on se fait dire « faites des appartements », mais les municipalités nous mettent des bâtons dans les rues pour pas construire. Fait que ça prendrait une table de concertation où est-ce que tu as le gouvernement provincial, tu as les promoteurs, tu as les municipalités qui sont assis ensemble, on dit bon, mais comment qu'on fait pour régler le problème, nous aider à construire plus, parce que si on construit pas plus, il va avoir un effet de rareté. Le taux d'occupation là, est en bas de 2 % là, en province. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont monter. Le coût des appartements vont monter. Ça va monter rapidement.
Il y a un rapport intéressant de la CHL, tu sais, puis c'est vraiment la vision. Puis on entend de plus en plus parler, mais ça n'a pas été encore mis assez à l'avant-plan. Tu sais, on parle de plus de 120 000 logements additionnels, donc au-dessus du rythme de construction habituel qui manque au Québec pour viser un certain équilibre entre l'offre et la demande. Mettons que pour la région de Québec, c'est 100 000 unités. Bien, au-delà du taux de construction des dernières années, on n'est pas là, là. Au contraire, avec le vent en face qu'on a présentement au niveau des taux d'intérêt, des coûts de construction, il y a un ralentissement. On le voit, là, les mises en chantier ralentissent, alors que c'est complètement l'inverse qui devrait se produire. Donc, oui, on parle de la PHLEC, ce n'est pas un programme parfait. On va attendre une version 2, mais il y a des actions concrètes, comme François a dit. Autocotisation, ça en est une. Il y a tout ce qui est au niveau de la taxation foncière. T'sais, on veut investir, on parlait de développement durable tantôt, on veut investir dans nos bâtiments, on veut mettre des meilleurs systèmes. Après ça, bon, on se trouve à être pénalisé parce que notre bâtiment a coûté plus cher, donc est porté au rôle à une valeur plus élevée aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut revoir. Tu sais, les délais. On a parlé de délais tantôt, mm-hmm. de changement politique, mais nous autres, dans un modèle financier, le temps, ça coûte de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de faciliter les processus, de préqualifier certains développements, certaines zones de développement? Donc, c'est des choses qu'il faut regarder. Ouais.
Mais j'étais contente de vous entendre là-dessus parce qu'on entend, c'est ça, du bien de la PHLEC, mais on entend du mal aussi, comme de quoi c'est un beau programme, oui, mais que c'est dur de rendre ça justement profitable des immeubles là, qui seraient classés à PHLEC. Fait que dans le fond, je comprends que vous autres, vous êtes agiles, vous êtes habitués de faire des projets aussi développement durable, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui joue en ligne de compte, qui fait que vous avez des success stories.
Ah, pour nous, on dit un gros merci à SHL. Sérieusement, ouais. Le programme APH Select, là, cool. Il cadre bien dans nos besoins. Puis, une chance que le programme y est là, parce que je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup, beaucoup moins de construction dans la province de Québec.
Puis définitivement. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, vous êtes aussi des catalyseurs pour, tu sais, accélérer les processus. Puis, tu sais, vous accélérez le nombre d'unités par coup de centaine. Fait que, tu sais, ça vient répondre à des besoins beaucoup plus rapidement aussi. Puis, ça vient diminuer la pression aussi sur les valeurs locatives. Là.
On va sortir là, de cette crise-là vraiment plus intelligent, vraiment plus performant. Parce que ça fait 10 ans qu'on fait de l'immobilier, Kevin et moi. Là. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois qu'on revire les proformas de bord, comment qu'on travaille nos plans de manière différente pour être en mesure vraiment d'optimiser les coûts de construction. Fait que tous les grands développeurs, là, quand cette crise-là va être passée ou va être derrière nous, là, on va être vraiment plus efficace. Fait que c'est quand on est en crise, quand on est dans une période difficile, que là, l'innovation sort.
Exact.
Donc, c'est pas mauvais qu'est-ce qui arrive actuellement, parce que ça nous permet vraiment de se reconcentrer sur des questions qu'on se serait peut-être pas posées si la crise n'était pas arrivée.
Puis arrive aussi les taux d'intérêt que, tu sais, ça met quand même une grosse pression, là. Tu sais, on avait un taux directeur en janvier 2022 à 0,25. En date d'aujourd'hui, on est à 4,50. Là, tu fais comme, attends un peu, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Tu sais, la rentabilité des projets se passe beaucoup aussi par le financement, puis de par les taux d'intérêt.
Oui.
Du moment où que les taux d'intérêt augmentent, ça vient automatiquement mettre une compression sur la valeur du projet, sur la rentabilité du projet. De quelle façon vous avez réussi à innover ou, tu sais, de faire en sorte de maintenir les rênes par rapport à ça?
Comme on dit, le Excel chauffe un peu plus qu'avant. Donc, des versions 80, 83 de nos projets, on en a une couple. Donc, c'est sûr qu'il faut virer le proforma de bord. Mais il n'y a pas de miracle. Quelqu'un qui va vous dire qu'il a trouvé une recette miracle, il va se discréditer complètement. Donc, c'est sûr que ça passe par vraiment, comme François a dit, de vraiment regarder chacun des aspects du projet en construction. On optimise beaucoup. Mais après ça, ça va aussi au niveau des attentes de rendement de nos investisseurs. T'sais, nous autres, on les rencontre, on dit, bon, c'est l'espèce de mentalité de dire qu'il faut qu'il y ait un profit très, très court terme qui se fasse, puis c'est de vraiment vivre dans l'Excel, qu'on pourrait dire, ben, on faut passer un petit peu au-delà de ça. Donc, l'immobilier, c'est sur le très long terme. Nous autres, c'est la stratégie qu'on est alignée du côté de Mostart. On a très, très peu vendu d'actifs au fil des années. Donc, c'est une stratégie, c'est vraiment des investisseurs, soit institutionnels ou des familles privées, qui c'est pas pour eux autres à court terme. Donc, c'est pour les futures générations. Donc, on les amène vraiment sur une vision long terme. Donc, le proforma, peut-être que 2 ans, ça vaut pas la peine. C'est pas le rendement qu'ils cherchent, mais sur un horizon de 10 ans, on retrouve quelque chose qui a un petit peu plus d'équilibre. Donc, on les amène vraiment sur ce côté-là. Côté de dire, bon, mais là, c'est un contexte de taux d'intérêt qui, je dirais pas qui est unique, mais qui est vraiment surélevé par rapport aux dernières années. Donc, on va vivre un 5 ans. Voici comment qu'on va le gérer. Par la suite, ben, le prochain 5 ans va peut-être être autre chose. L'autre élément, c'est qu'on a quand même été opportuniste dans le marché parce que les taux d'intérêt, oui, ont subi des hausses, mais on joue beaucoup, nous autres, avec les taux long terme. Donc, il y a eu des moments que le marché a été très optimiste sur les taux long terme. Donc, on a eu 2 opportunités, nous autres, là, récemment, un petit peu avant les fêtes, au retour des fêtes, où qu'on a faites des swaps de taux d'intérêt. On a fixé nos taux d'intérêt d'avance pour des projets qui sont en construction actuellement. Fait que peut-être que l'avenir va nous dire qu'on n'avait pas raison, qu'on aurait dû attendre, mais on a sécurisé un rendement pour nos investisseurs.
La boule de cristal des taux d'intérêt, là, crime que c'est difficile.
Non, mais il faut les suivre, puis l'équipe de Kevin est parfaite pour ça. Puis l'autre élément que je peux rajouter à ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se lance. On a beau regarder un projet sur un chiffrier Excel, là, mais c'est quand on tombe vraiment en exécution, en pré-développement, de manière importante, avancée avec notre équipe de professionnels, qu'on trouve des solutions. On se dit, bon, mais parfait, est-ce que dans ce cadre-là, on est capable de faire un projet avec un rendement X? La réponse, c'est oui. Mais maintenant, c'est à l'équipe de développement puis de construction d'être en mesure de battre ces proformas-là. Fait que là, on se met ensemble, on se creuse la tête, on travaille, on change des plans, on conçoit, on construit, on coûte des équivalents, puis on essaie de battre nos proformas. On se crée une contingence, puis on avance.
Ça, c'est quand même malade, là. Puis, tu sais, la proactivité que vous avez dans chacun de vos projets, puis, tu sais, l'innovation que vous incluez aussi dans vos projets, C'est ce qui fait une de vos marques de succès aussi.
Oui, c'est ça. Puis je comprends que votre équipe est vraiment mobilisée. C'est ça que tu dis, là, on se met en action. Avez-vous des problèmes de pénurie de main-d'œuvre? On le sait, là, ça touche quand même beaucoup d'entreprises.
Non, on n'en a pas. Donc, chez Mostar, on n'en a pas. Parce que vraiment, tu sais, je vous expliquais la marque est là. Puis notre équipe, là, c'est vraiment des crinqués d'immobilier. Là. Fait qu'on est vraiment une boîte où est-ce qu'on partage l'information. On partage l'information à nos employés. On leur explique où est-ce qu'on s'en va, quelle direction qu'on prend. On a une planification stratégique sur 5 ans. Chaque année, on fait des objectifs dans chacun des départements à atteindre. Fait que tout le monde devient mobilisé, engagé, puis le mot se passe. Puis quand tu fais des projets well, des grands projets sur le boulevard Laurier, l'EUP, des projets industriels, ça se promène dans l'industrie. Fait que les gens des autres entreprises, qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils veulent
venir travailler chez Mostar.
Une fierté.
Ben oui. Puis tu sais, en même temps, c'est que tu veux participer aussi à la réalisation des projets. Tu veux faire partie de la réalisation puis de laisser un gage de patrimoine ou ce que tu as contribué à ces succès-là aussi. Là.
Mais tu apprends. Tu sais, je veux dire, notre comptable, même si c'est comptable, il apprend le développement immobilier. Fait que c'est pas juste rendre des chiffres dans un chiffre Excel. Non, non, on va t'expliquer comment ça marche, le développement immobilier. Fait que quand tu travailles dans notre entreprise, c'est ça que les gens viennent chercher. Fait qu'ils sont capables de comprendre tous les rouages de comment qu'on fait pour livrer un projet.
Tu sais, on a le privilège de vraiment d'être dans une industrie où que tu peux te promener en auto puis dire, peu importe, là, tu dis à tes enfants, n'importe qui de notre entreprise peut pointer un projet et dire, hein, c'est nous autres qui a fait ça, nous. Puis ça, ben, on apprend une grande fierté.
C'est hot, c'est vraiment hot. Puis les gars, en parlant de success story, là, j'aimerais ça que vous me donniez 2 success stories. Un sur vos résidentiels, qu'est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous êtes vraiment fiers de ça? Puis un deuxième, soit commercial, industriel, bureau, là, tu sais, je vous laisse les choix. Quel projet résidentiel qui vous a genre vraiment allumé puis que c'est vraiment un gros wow?
Ben, c'est certain que le MU est un success story incroyable pour nous. Par sa localisation, par le fait que c'est un dossier qui était extrêmement rapide.
Toute la démarche aussi avant.
Toute la démarche. Puis je vais vous en compter juste une petite minute. Là. Kevin et moi, quand on a reçu l'opportunité, on vous a expliqué qu'on a gelé le dernier terrain, qu'on a fait de l'acquisition, mais il fallait qu'on trouve 17 millions en 25 jours. Il fallait que le chèque soit versé de 17 millions en 25 jours. Donc, je me souviendrai toujours, moi et Kevin, le lendemain, dans les jours qui suivent, on prend l'avion, on s'en va à Toronto. On appelle notre investisseur, on dit on a gelé un terrain super intéressant, on aimerait ça te rencontrer. Ah, je suis pas disponible, les gars, ça marche pas, je suis dans le jus. Non, on s'en vient, là, dans une demi-heure, on est là, puis on va prendre juste 15 minutes de ton temps. Fait qu'il dit parfait, fait qu'on s'en va. On était dans une conférence à Toronto, on sort, moi et Kevin, on monte un PowerPoint en 30 minutes de 3 pages. Un concept, une coupe de chiffres. Voici qu'est-ce qu'on pourrait faire. On va s'asseoir avec les gens de Fiera. Gros investisseur, on dit 15 minutes. On est présent de PowerPoint. Voici qu'est-ce qu'on pense. Notre investisseur nous regarde et dit, guys, that's a good piece of dirt. Fait qu'il dit, we're gonna be there. Fait que, parfait. Mais il dit, je suis pas sûr si on va le prendre au complet aujourd'hui. Fait que Kevin et moi, on se regarde. On appelle notre investisseur à Montréal. Il dit, oui, je peux vous rencontrer demain matin à 6 heures. Parfait. On n'avait pas nos valises, on n'avait rien. On se book un avion à l'aéroport. On s'en va direct à Montréal. On arrive à 11 heures le soir. On se book une chambre d'hôtel directement où est-ce qu'était notre rendez-vous le lendemain matin. Fait qu'on peaufine un peu la présentation. Puis le lendemain matin, on rencontre notre autre investisseur à 7 heures le matin au petit déjeuner. On lui présente le projet. Puis il dit la même chose. That's a good piece of dirt. Je veux être là. Fait qu'on retourne à Québec. On fait l'assemblage, on dit « Toi, tu ramasses tant, toi, tu ramasses tant. » Puis 15 jours après, on avait des sous dans notre compte avec le Proforma pour être en mesure de faire l'acquisition de terrain.
Quand même malade.
Ça, c'était une histoire là, qui
parce
est
entre le premier courriel qu'on a eu l'opportunité, puis vraiment le closing, c'est 4 mois, ce qui est rien. Là, tu as fait toutes tes vérifications, tu as levé l'argent, tu as fait... Non, c'était vraiment un processus exceptionnel.
Vraiment, là, tu sais, j'ai eu des frissons là, pendant que je parlais. Là.
On va être agile.
Ah oh, oui, vraiment. Puis au niveau commercial, industriel, bureau, là, dans les projets que vous avez faits?
Ben, tu sais, industriel, il y en a 2 belles histoires. T'sais, moi, c'est sûr que les terrains qu'on travaille présentement ou l'aéroport, tu sais, ce que ça met en évidence, c'est nous autres, on a travaillé certaines offres d'achat sur des terrains, mais c'est la force de la marque, comme François l'a dit, mais des partenariats qu'on est capable de faire. Donc, il y avait un de nos entrepreneurs généraux qui, lui, travaillait sur des terrains un petit peu plus à l'ouest. Puis, ben, à un moment donné, on s'est assis, pourquoi qu'on travaille pas ensemble? Donc, t'sais, nous autres, on a une relation client-fournisseur, mais là, il vient nous voir, dire moi, j'aimerais ça être partenaire avec vous. Donc, on a tout mis sur la table. Puis, ben, aujourd'hui, ça nous donne le beau projet qu'on travaille actuellement. Puis, tu sais, l'autre, c'est notre développement à Saint-Augustin qu'on travaille actuellement. Tu sais, il y a eu beaucoup, c'est une longue histoire, mais bref, il y a eu beaucoup d'opportunités. Il y a eu des challenges dans ce dossier-là. Puis, à un moment donné, il a fallu caler la chute. On dit, ben, est-ce qu'on y va? Spec. Donc, on a été approché. Il y avait un locataire potentiel pour une petite superficie. Notre investisseur était là, t'es pas là. Tout ça, nous autres, on a dit, garde, on le fait. Puis ben aujourd'hui, on t'avait d'annoncer la conclusion de ce dossier-là qui va être très heureuse pour tout le monde.
Ouais.
quand même fou, là. Les gars, c'est vraiment hot qu'est-ce que vous avez mis en place. C'est vraiment hot qu'est-ce que vous construisez. Puis surtout l'empreinte que vous laissez dans la ville de Québec puis la grande région de Québec. Puis êtes-vous sur Montréal?
On regarde. On est partout en province, excluant Montréal.
OK.
Donc, est-ce que ça va arriver bientôt? On verra.
Cool. François, merci d'avoir été présent. Kevin, merci d'avoir été présent. Ça a été un honneur. Vous avez encore ma carte chouchou cette année. On peut se redonner rendez-vous dans 3 ans pour faire une mise à jour d'ImmoStar. J'ai hâte d'entendre justement tous les prochains projets. Puis, tu sais, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dans le pipeline déjà en réalisation.
C'est ça, pour suivre, vous suivre, là, les gens qui sont intéressés d'en savoir plus sur le dévoilement là, du fameux locataire qui s'en vient, les nouveaux projets. C'est quoi la meilleure façon
de
suivre?
On a notre page LinkedIn. On a notre site web, ImmoStar.ca. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. Donc, tous les moyens sont bons.
Parfait.
Yes, merci pour l'invitation. Merci les gars d'avoir été présents. Vous étiez à la Bulle immobilière, l'alternative radio, la seule émission qui parle de l'immobilier. J'espère que des gars comme ça viennent vous crinquer. Vous désirez en apprendre plus, super simple, allez consulter tout ce qu'ImmoStar fait. Ça vaut la peine. Puis pour ceux qui ont besoin, vous pouvez aussi arrêter au Madrid. Vous allez avoir aussi des mises à jour qui sont mises là. Fait que vous avez besoin de quoi que ce soit, la Bulle immobilière est toujours là pour votre contenu audio. Merci tout le monde, bon samedi, bye bye.
La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com, yes.